Bonjour, je suis Pascal Solière et c'est l'épisode 8 de ITcast du 6 mars 2015. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Arnaud et Stanislas et on va parler des chiffres des Tech Days, on va parler de mobile avec le MWC de Barcelone et puis on va parler de cloud avec les dernières annonces Azure et Intune. Puis notre vrai sujet du jour, ça va concerner un MCP pour une fois, puisque nous allons décortiquer pour vous le nouvel examen 70-533 qui concerne Azure pour les IT, auquel on vous conseille vivement de vous intéresser. Bonjour, je suis Pascal Solière, on est le vendredi 6 mars 2015 et puis je suis avec Arnaud Lheureux et Stanislas Questana en ligne. Salut Stanislas.
Bonjour.
Salut Arnaud.
Salut Pascal, salut tout le monde.
Vous allez bien ?
Yes.
Bon, on va parler aujourd'hui de deux choses. On va parler d'abord d'actualité et puis d'actualité notamment au niveau de autour d'Azure. Et puis dans une deuxième partie, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous en ce moment, c'est la certification Azure, c'est-à-dire les examens qu'on peut passer pour se certifier professionnellement autour de Microsoft Azure. Donc on va parler un petit peu du programme de cette certification, notamment celle qui concerne nos amis IT, et on verra ce qu'il convient de travailler. Donc d'abord, dans un premier temps, on a quelques petites nouvelles de nos Tech Days qui se sont déroulées mi-février. Je crois qu'on a quelques chiffres, Stan.
Oui, on en a. Ah. Donc, on va dire que ça s'est plutôt bien passé encore cette année et que donc du coup, les chiffres ont augmenté encore par rapport aux années précédentes. Donc, ça conforte le fait que, effectivement, les Microsoft Tech Days qui ont lieu en France sont faites désormais aujourd'hui le plus gros événement IT à l'échelle européenne. En cumulé, ça représente à peu près 18 000 visiteurs sur les 3 jours. Donc, cumulé parce que certains visiteurs viennent durant 2 jours ou 3 jours ou une seule journée. Il y avait également en live streamé une partie de quelques sessions et également les plénières qui étaient disponibles sur la Tech Desk TV. Et donc ça représentait à peu près 123 000 visites sur le web durant ces 3 jours. Et puis si on parle de personnes par exemple réellement physiques, si on prend la plénière qui nous concernait, nous les IT, il y avait un petit peu plus de 2500 personnes présentes dans la salle plénière le matin du jour 2 pour assister effectivement à la conférence plénière sur le cloud et la mobilité. Les vidéos et les présentations sont déjà disponibles. Elles sont disponibles sur www.mstechdesk.fr et vous aurez donc la majorité des slide decks, donc c'est-à-dire des PowerPoint, sont disponibles. Et puis pour certaines sessions, on va dire les plus celles qui avaient été choisies, on les a également disponibles en vidéo à la demande. Et c'est gratuit.
Oui, toutes n'ont pas été filmées, mais les principales ont été filmées. Hein, celles où il y avait le plus de monde ont été filmées, enregistrées. Et puis sinon, il y en aura peut-être d'autres qui apparaîtront sous une autre forme, qui seront rejouées sous forme de cours MVA, par exemple, sur le site Microsoft Virtual Academy.
Exactement. Alors, dans les actualités, avant de rentrer dans le vif d'Azure, première actualité, c'est il y a eu la Mobile Worldwide Conference 2015, qui a eu lieu donc à Barcelone, qui est la conférence un petit peu où tous les constructeurs dans le monde de la téléphonie viennent faire leurs annonces en téléphonie au sens large. Hein, ça va également jusqu'aux tablettes. Qu'a annoncé Microsoft durant cette conférence? Alors, on a annoncé en fait deux nouveaux Microsoft Lumia. Le 640 et le 640 XL. Donc le XL est une phablette et le 640 est un smartphone. Elles seront bien entendu toutes les deux disponibles avec du Windows 10 dessus. En termes de positionnement, c'est des périphériques d'entrée de gamme. Le 640 XL devrait coûter entre 190 et 220 euros en fonction si c'est de la 3G ou de la 4G. C'est un écran 5 pouces 7 en HD. Il y a une caméra 13 millions de pixels avec une optique Zenz. Et puis, pour faire des selfies, il y a une caméra frontale de 5 millions de pixels. Et les deux peuvent également faire de la vidéo en Full HD, donc du 1080p. Et le 640, le Lumia 640, lui, il est plus petit, il fait 5 pouces. Il sera entre 140 et 160 euros en fonction de si on prend une option 3G ou 4G. Et donc il a une caméra qui est un petit peu moins bien, qui est une 8 millions de pixels, et 1 million pour la partie selfie. Voilà.
Oui, ils sont pas mal ces téléphones, parce qu'on a le choix entre le effectivement 3G et 4G, mais aussi on a le choix entre double SIM ou simple SIM. Donc on a 4 possibilités assez sympas.
Et ce qui est assez intéressant également, c'est que seront vendus avec ça, seront intégrés avec ça, donc 60 minutes de Skype sur une année et 1 Tera de stockage dans OneDrive et un abonnement d'une année à Office 365. Donc c'est plutôt un bon petit package.
Ah, oui.
Service et mobile. Toujours à la MWC, on a également annoncé un petit clavier Bluetooth pliable qui s'appelle le Microsoft Universal Foldable Keyboard. Tu remarqueras l'accent.
Avec l'accent.
Parfait. Exactement. Donc, c'est un clavier sans fil pliable. Donc, il se plie en deux. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir le faire fonctionner avec des smartphones Windows, des iPhones ou de l'Android, sous réserve, effectivement, d'avoir un circuit Bluetooth de type 4.0. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste de sympathique qui a été proposé, qui tourne autour de ces technos-là à la MWC? Il y a Acer qui se remet à Windows Phone en entrée de gamme. Donc il y a très longtemps, ils avaient fait effectivement des périphériques, ils avaient arrêté, ils reviennent. Donc ils auront un périphérique vraiment d'entrée de gamme puisque on est sur un écran 4 pouces en 800 par 400 pixels, ce qui est relativement, on va dire, petit, avec un petit double corps, 512 mégas de mémoire, 4 gigas de stockage interne. Donc on est vraiment sur de la petite entrée de gamme, parce que c'est encore plus petit que le Lumia 435. Mais par contre, en termes de prix, ce sera relativement intéressant parce que il est annoncé ce smartphone Acer sous Windows Phone à 79 euros. Donc voilà. Et il disposera d'une mise à jour vers Windows 10, édition mobile. Donc c'est plutôt également un petit téléphone complémentaire qui peut être intéressant. Il y a Lenovo également qui a annoncé des nouvelles tablettes, dont une sous Windows. Donc petite tablette Windows qui va coûter dans les 150 $, avec du Betrayal derrière, 2 gigas de mémoire, du stockage avec 64 gigas de flash. Et puis après des choses classiques, un appareil photo, une webcam. Et puis ce qui est là encore intéressant, c'est qu'elle est livrée là encore avec une suite Office 365 offerte pendant un an par Lenovo. Donc du coup, c'est plutôt assez intéressant, c'est une petite tablette sympa avec une autonomie de 7 heures.
Et autre petite nouvelle intéressante aussi, c'est que dans l'extension de la plateforme des applications universelles, on a aussi montré les applications universelles projetées dans Xbox One. Donc faire tourner une application Windows 10 à l'intérieur de Xbox One, c'est une des choses qui a été montrée également à la MWC.
Donc on a fait les mobiles, on va faire le cloud maintenant peut-être avec Azure, un petit peu sur les nouveautés. Arnaud ?
Yes, alors pas mal de nouveautés qui ont été également annoncées ces derniers jours. On a notamment annoncé la disponibilité de ce qu'on appelle le Password Rollover for Social Media Accounts pour Azure Active Directory. Alors c'est quoi ? En fait, on a prévu pour les comptes de type réseaux sociaux, donc pour tout ce qui est LinkedIn à Facebook et Twitter, on a la possibilité, et ça c'est pas nouveau, de partager un compte entre plusieurs utilisateurs, c'est-à-dire que je vais ouvrir ma session avec Azure Active Directory, et puis je vais pouvoir faire du SSO et avoir accès à un compte de médias sociaux qui est partagé entre plusieurs utilisateurs. Ça c'est quelque chose qui existe déjà, c'est les groupes dans Azure Active Directory. On a rajouté une fonction supplémentaire maintenant qui permet de changer, de renouveler les mots de passe avec le temps de ces comptes de médias sociaux, et puis évidemment de reprojeter ça pour tous les utilisateurs qui vont se loguer sur le compte. Donc on définit la périodicité globalement de ce changement de mot de passe. On dit voilà, je voudrais que le mot de passe soit changé automatiquement par le système toutes les 4 semaines, et ça permet comme ça de sécuriser un petit peu plus le compte tout en gardant la fonctionnalité que ce soit partagé sur l'ensemble des utilisateurs. Et évidemment, ce mot de passe n'est pas connu des utilisateurs. Eux, ils connaissent leur mot de passe de leur compte individuel et après leur identité tire parti de ce compte de médias sociaux.
Donc en résumé, ils ont les utilisateurs de l'entreprise ont leur compte individuel Azure Active Directory qui leur permet d'accéder de manière mutualisée au compte de réseau social utilisé en commun dans l'entreprise.
Absolument. Ouais, ça correspond vraiment à une menace qu'on a déjà vue, ça, hein, ce scénario-là de comptes de médias sociaux paumés par les, on va dire, les community managers et qui, du coup, bah, peuvent ternir l'image de la société de manière globale. Ça s'est déjà vu. Donc là, c'est assez important et assez intéressant.
Ouais, et puis ça évite la tradition séculaire du la transmission du mot de passe qui ne change jamais entre stagiaires, parce qu'en général c'est effectivement pas les managers du marketing qui s'occupent de gérer la partie communauté sociale, et ils font faire ça souvent par des community managers externes ou des stagiaires, et ça évite effectivement ces petites dérives.
Ouais. Quelques autres nouveautés assez intéressantes dans la partie Azure Media Services cette fois-ci. Alors globalement, maintenant, on a un setup intégré de Media Services avec le CDN. C'est-à-dire que globalement, quand on veut faire des médias dans Azure, on a la possibilité de provisionner tout ce qui va être relatif aux médias en même temps, c'est-à-dire le déploiement du service de médias et puis le déploiement de la diffusion. Donc le CDN, en fait, c'est pour le Content Delivery Network, c'est pour dire je vais délivrer du contenu rapidement au plus proche des utilisateurs. Et puis autre nouveauté pour la partie média, c'est qu'on a on met à disposition le Media Encoder Premium qui permet, et ça Dieu sait qu'on a tous besoin ces jours-ci, d'encoder des vidéos en 4K. Oui. Donc ça c'est en public preview.
Parce que la 4K c'est important pour l'avenir.
Exactement. Des choses un petit peu moins funky peut-être, quoique ça dépend du sens de funky qu'ont les gens, hein, mais DocDB est maintenant ce qu'on appelle Generally Available. Il a été finalisé entre guillemets, même s'il continuera bien évidemment à évoluer, mais ça veut dire que il est maintenant live, complètement supporté. DocDB c'est quoi? C'est globalement une autre architecture de stockage de données de type NoSQL. Donc les architectures de type NoSQL en ce moment sont assez le vent en poupe. On en a fait le nôtre, ça s'appelle DocumentDB, c'est présent dans Azure et c'est maintenant complètement supporté, comme tous les services Azure.
Alors tout à l'heure, tu parlais de 4K, effectivement, le vieil adage « the bigger is better », plus c'est gros, mieux c'est, se retrouve également avec l'arrivée de deux nouvelles éditions de nos machines virtuelles, donc des AX quelque chose. Donc on a désormais les A10 et A11, qui sont donc des modèles de machines virtuelles qui sont désormais disponibles. Et en gros, elles sont similaires à leurs précédentes, à 8, à 9, sauf que effectivement elles ont plus de patates, comme on dit dans le jargon. Donc une A10 à 8 cœurs virtuels et 56 Go de mémoire, et une A11 c'est 16 processeurs virtuels et 112 Go de RAM. Donc c'est vraiment effectivement là encore pour des opérations qui nécessitent des opérations de compute un peu intensives, par exemple de l'encodage vidéo, tiens, ou de la modélisation de risque, ou des choses comme ça. Voilà. Au passage, ces instances, elles ont l'intérêt de ne pas embarquer forcément des choses qu'on avait mis dans les A8 à 9 qui n'étaient pas utilisées par tout le monde, comme la partie InfiniBand en termes de networking. Donc du coup, on est à peu près une A10 à 11 est équivalent à une A8 à 9, mais sans la partie réseau InfiniBand qui était plutôt réservée à tout ce qui était HPC. Et donc voilà.
Ça va devenir une science, hein, bientôt.
Ah ben, c'est un métier même, je dirais.
Toujours un petit truc dans la partie base que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça nous concerne un petit peu moins directement, puisque les parties SQL Database, cette fois-ci, c'est dispo dans sa V12, qui est la dernière version, maintenant partout dans le monde. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas disponible en Asie, maintenant, c'était mis à disposition dans les data centers asiatiques également. Donc, peut-être que c'est pas directement dans l'activité de tous les jours, mais ça peut servir de le savoir quand on fait des architectures globales. Petite chose un petit peu plus grand public qui, je sais, ravira tous les geeks d'entre nous, la Remote Desktop App sur Windows Phone qui a évolué, qui était disponible cette semaine. Vous pouvez l'installer et puis vous pouvez même voir si vous l'aviez déjà installé précédemment sur votre Windows Phone que cette Remote Desktop App, elle s'est largement enrichie parce qu'elle supporte maintenant les Remote Desktop Gateway et l'utilisation de ressources de publication d'applications à distance. Donc superbe, c'est dispo, allez-y, testez-le, faites-vous plaisir, c'est plutôt cool.
Et Pascal, côté Microsoft Intune, est-ce qu'il y a eu des petites mises à jour ce mois de mars?
Voilà, comme chaque mois, il y a une petite mise à jour sur Microsoft Intune, et donc au mois de mars, là pour le mois de mars, on a quelques petites mises à jour, c'est pas la grosse révolution, hein, mais il y a quelques évolutions, il y a notamment la possibilité maintenant de s'intégrer au programme DEP, Device Enrollment Program d'Apple pour déployer en entreprise des appareils iOS, des iPads et des iPhones. Il y a le deuxième point, la possibilité maintenant de restreindre l'accès à SharePoint Online et OneDrive for Business en fonction du fait qu'on est enrôlé, que l'appareil est inscrit dans Intune ou non. Comme on avait déjà cette restriction sur possibilité de restreindre notamment l'accès à Exchange en fonction de cet enregistrement ou non. Le troisième point, c'est qu'on a ouvert, enfin on a modifié l'application OneDrive, enfin les applications OneDrive pour iOS et Android, de façon à ce qu'elles supportent le management d'applications. C'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer des politiques de management d'applications aux applications OneDrive. Hein, et je rappelle que OneDrive maintenant gère les deux environnements, l'environnement personnel avec OneDrive personnel et puis l'environnement professionnel avec OneDrive for Business. Point suivant, donc là, oui, ça c'est un point qui intéresse beaucoup nos amis développeurs, la possibilité de déployer des applications AppX sur Windows Phone 8.1. Donc les nouvelles applications, historiquement on savait déployer des applications de type XAP, des fichiers XAP pour Windows 8.1. Maintenant on sait aussi déployer le nouveau format, donc le format d'application AppX sur Windows Phone 8.1. Et c'était une demande très forte de nos amis développeurs. Dernier point, la possibilité maintenant de restreindre le nombre de périphériques qu'un utilisateur va pouvoir inscrire sur Intune. On a la possibilité, avec une licence Intune par utilisateur, d'inscrire 5 périphériques. On va pouvoir dire, non, vous n'avez droit qu'à, par exemple, 3 ou 4 périphériques à inscrire, pour éviter de devoir se multiplier trop le nombre de périphériques gérés par Intune. Donc voilà en gros les nouveautés, hein, qui sont pas... Il y en a moins que les mois précédents, mais ça continue à se développer tranquillement au niveau d'Intune.
Eh bien, donc, on va passer d'un nuage à l'autre. Donc, tu étais sur la partie Intune, qui est donc du software de service pour faire de la gestion mobile d'applications ou de la gestion de périphériques mobiles. On va revenir sur notre infrastructure principale, qui est Azure, avec, du coup, la disponibilité d'un examen MCP, donc un examen permettant de se certifier professionnellement sur notre plateforme de cloud public. Et donc il y a plusieurs examens qui existent autour de la plateforme Azure, plusieurs examens en fait qui sont simplement segmentés en fonction des profils professionnels derrière qu'il va y avoir. Donc on a des examens qui sont pour les développeurs, donc qui sont vraiment du développement pour Microsoft Azure, et puis on a l'examen pour nous les IT, qui est donc l'examen 70-533, le dernier, qui s'appelle donc Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solution, donc qui est donc un MCP dans lequel il y a pas mal de boulot à faire, parce que il intègre en fait ce MCP des questions et des connaissances à avoir sur la plateforme PaaS et la plateforme IaaS de Microsoft Azure. Et ce qu'on vous propose là pendant les prochaines minutes, c'est de faire un petit passage ensemble sur les différents points qu'il y a à travailler pour cet examen. Et puis ça vous donnera comme ça un peu une idée de où est-ce que vous êtes positionné, ce que vous avez encore à travailler si vous voulez passer cet examen, qui fait à ma connaissance 50 questions sur une durée d'environ 150 minutes au maximum en fonction des langues qu'on choisit. Voilà.
Donc 150 minutes, c'est 2h30. C'est long. La durée est justifiée par le fait que l'examen n'existe pas encore en français. Pour l'instant, il est en anglais ou en japonais. Donc la première compétence à acquérir, c'est l'anglais ou
le japonais.
C'est obligé.
Effectivement, si on est un petit peu sadomaso, on peut se tenter l'examen en japonais. Ça ne fait jamais de mal ou un petit peu.
Donc, un petit peu de défi, parce qu'en anglais, on est tous d'accord qu'il n'y a pas de challenge, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que beaucoup de personnes, genre, j'ai souvent entendu des personnes qui disaient « Ouais, les MCP, n'importe qui peut les avoir, les gamins de 4 ans les ont, etc. » Bon, ça reste un examen, effectivement, qui est sous la forme d'un QCM, qui nécessite du bachotage, clairement. Là, j'aurais tendance à dire quand même, par expérience, et pour passer des MCP depuis 98 déjà, donc ça fait déjà quelques années que j'en passe, j'aurais tendance à dire que le niveau va un peu en augmentant, parce que le spectre s'élargit, et que les questions des fois sont très très précises et sont plus nécessitent d'avoir un peu plus de vécu ou de manipulation sur la plateforme ou la solution versus ce qu'on avait il y a 5 ou 10 ans dans les examens. Voilà.
Ouais, c'est, enfin, l'image que j'en ai, c'est que ça devient de plus en plus en fait pragmatique. Hein. C'est-à-dire que c'est pas fait pour avoir des questions tordues de tous les côtés, mais vraiment pour vérifier que vous l'avez bien utilisé en réel et que vous n'avez pas fait non plus du bachotage à l'aveugle, on va dire, comme ça pouvait être le cas, mais de bien vérifier que bah, si vous l'avez utilisé honnêtement, vous l'avez déjà utilisé en production et exploité. Globalement, il faut réviser un certain nombre de points, mais il n'y a pas de piège immense avec des trucs tordus sur lesquels la virgule est pas exactement à la bonne place, exprès pour faire échouer quoi. Oui, c'est pas non plus un petit niveau de sadomasochisme à ce point-là.
Il faut dire que tous nos collègues, notamment de Corp des États-Unis, qui ont déjà passé l'examen, ont été largement surpris par le niveau de difficulté. On trouvait ça plus difficile que ce à quoi ils s'attendaient. Donc c'est un examen effectivement assez sérieux. On va le passer, nous trois. Donc, Arnaud et Stan, vous le passez très prochainement.
Exactement.
Je crois que c'est prévu dès lundi. Je le passe une semaine plus tard et donc peut-être qu'on vous parlera de nos résultats respectifs prochainement.
Exactement. Avant d'aller dans le détail de la session, d'ailleurs, on peut peut-être d'ores et déjà annoncer à nos auditeurs en un petit peu exclusivité que nous allons faire de cet examen une petite cours de préparation sur la Virtual Academy, sur Microsoft Virtual Academy. Hein.
Oui, alors quand j'ai dit petit cours, c'est un euphémisme, il y aura quand même quelques heures de cours, mais effectivement, du fait de notre expérience de révision, plus le passage de la certification avec mon expert, l'obtention à la clé, eh bien on va vous synthétiser l'ensemble des bonnes choses à retenir, pour être préparé au mieux, et on vous donnera toutes les ressources et vous aurez donc des vidéos tranquillement pour regarder les différents modules de préparation, et on vous fera des petites démonstrations également pour vraiment illustrer tout ça. Donc ça arrivera prochainement, c'est prévu en enregistrement dans le mois.
Et rappelons également que cet examen dont on mettra le pointeur hein, sur le site, pour l'instant il est accompagné d'une offre dite de session de rattrapage qui s'appelle Second Shot, qui permet de le repasser si on le loupe une première fois.
Donc ça donne que l'idée, effectivement, que l'examen est un peu plus sérieux. Donc, si vous passez l'examen avant le 31 mai 2015, effectivement, vous le loupez, ce n'est pas grave, vous repréparez et vous le repassez, et vous n'aurez pas à repayer les coûts de passage de l'examen. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on attaque par les différents blocs qui sont traités dans cet examen, donc les différents blocs de révision. Qui commence ?
C'est les services classiques d'une infrastructure de type IaaS et PaaS, comme tu l'as dit, Stan. Alors, le premier, c'est les architectures de sites web. Comment on met en œuvre des websites, des sites web dans Azure. Donc, c'est des questions qui sont relatives au déploiement de packages de sites web. Donc, en gros, qu'est-ce que je vais utiliser comme commande PowerShell pour aller pousser des informations dans la plateforme, pour aller pousser mon application dans la plateforme? Comment est-ce que je vais connecter ma machine cliente pour aller récupérer des informations sur le site web? Quel outil je vais avoir pour l'administration, pour récupérer des logs? Quel log je vais devoir utiliser pour faire soit des diagnostics de troubleshooting de type runtime, c'est-à-dire une application qui a un bug à l'intérieur d'elle, ou alors pour faire des tracings de type plateforme, voir ce que le serveur 2IS, ça vous surprendra ou pas, mais c'est 2IS derrière la plateforme website, les logs de type 2IS sont en train de fournir comme information sur les clients qui sont connectés. Donc faire un peu de la surveillance et de l'analyse. Voilà. Et puis ensuite, pas mal de questions, hein. Vas-y, je t'en prie, Stanislas.
Oui, toujours sur la partie website. Donc effectivement, le module website dans la révision inclut tout ce qui est Azure Website, mais ça inclut également une fonctionnalité qui s'appelle le Traffic Manager, hein, qui permet effectivement d'aiguiller des trafics. Donc en gros, à bien réviser, c'est effectivement tout ce qui est les différents modes de déploiement, parce qu'on a quatre modes de déploiement, gratuit, partagé, basique et standard. Donc il faut bien savoir quelles sont les différences. Dans ce module, on parle également de tout ce qui est SSL et de DNS pour pouvoir effectivement personnaliser ces serveurs. Donc du fait du Traffic Manager, on parle du coup d'équilibrage de charge. Et puis, petite chose que j'ai découvert dans la révision, parce qu'on ne connaît pas tout, hein, heureusement, c'est la présence de fonctionnalités qui sont intégrées en fait intimement dans la plateforme, qui s'appelle les Azure Website Analytics, qui sont en fait du code JavaScript qu'on va mettre côté client, exactement comme du Google Analytics aujourd'hui, mais c'est intégré en fait et c'est gratuit dans la plateforme Azure Website. Ça permet d'analyser quel navigateur est venu, par quelles sessions sont venues, quelles sont les pages lentes, etc. Donc c'est plutôt assez intéressant.
On passe à la deuxième partie.
Allez, deuxième partie.
Donc la deuxième partie, c'est la mise en œuvre de machines virtuelles dans la partie IaaS de Azure. Faut dire également que chaque partie correspond à peu près à 15 à 20% des questions, hein, d'après ce qu'on lit sur la description de l'examen. Donc mise en œuvre d'ordinateurs virtuels. Donc il s'agit de savoir déployer des charges de travail, donc des workloads sur des machines virtuelles Azure, en graphique et en PowerShell. On insiste pas mal sur le déploiement de machines virtuelles Linux, donc c'est pas mal de savoir manipuler un petit peu du Linux, notamment comment on s'y connecte avec un client SSH, comment on identifie les clés, les certificats SSH, ce genre de choses-là. La mise en œuvre d'images et de disques, on en a pas mal parlé déjà, donc la distinction entre les images et les disques, comment on envoie des images préparées en local vers Azure, etc. La gestion de configuration, donc tout ce qui est Desired State Configuration dans PowerShell, donc comment on va pouvoir provisionner des architectures un petit peu complexes avec PowerShell DSC vers Azure. Donc beaucoup de PowerShell et beaucoup de DSC, hein, c'est des choses qu'il faut avoir touché un petit peu. Et les extensions de script qui vont avec, donc les extensions PowerShell, de machine virtuelle Azure, avec les extensions de script PowerShell, et puis Puppet et Chef, effectivement. Donc du Linux, de l'open source, du Puppet, du Chef, tout ça, c'est un petit peu, ça nous change un petit peu, et c'est plutôt intéressant. La mise en réseau des machines virtuelles, donc je sais pas si tu veux préciser un petit peu, Arnaud, les grandes notions qu'il faut maîtriser au niveau de la mise en réseau.
Bah, c'est effectivement intégrer toutes les choses relativement basiques par rapport au réseau, savoir qu'effectivement on est dans une plage d'adresse IP de type RFC 1918, que donc c'est un adresse IPv4 privé, savoir que effectivement on va pouvoir interconnecter ces réseaux avec le data center de l'entreprise, soit par du VPN IPsec en passant par Internet. Mais c'est plutôt dans les critères étant plutôt un déploiement à bande passante, on va dire, limité. Pour rappel, on estime qu'on est dans les environs les 80 mégabits par seconde. La passerelle par défaut de VPN IPsec est à ses limites. Donc c'est plutôt un mode à faire performance basse, mais coût pas cher. Et puis que si on veut effectivement avoir des choses plus performantes, il faut faire appel à ExpressRoute, qui est un petit peu plus cher pour une connexion site à site. Revoir quelques points aussi par rapport à la configuration à point à site, c'est-à-dire un client qui vient se connecter à un VNet. Et puis point important aussi, c'est qu'il faut ne pas avoir peur des fichiers XML, puisque les fichiers XML sont à la base de la configuration des réseaux virtuels. Donc si on veut faire des changements un petit peu évolués sur la plateforme, il va falloir récupérer le fichier XML et il faut donc avoir vu déjà un petit peu ces fichiers et savoir un petit peu quelles sections vont être références sans quelle partie. Donc quelques petites questions sympas sur par exemple mon client n'a pas d'adresse IP, enfin n'a pas le DNS, vérifier la syntaxe dans l'infrastructure.
Oui, bien retenir également pour dans le cadre de l'examen là encore, hein, pour cette partie qui est les machines virtuelles, de bien savoir en gros comment sont disposés les disques en termes de lettres, disques permanents, persistants versus disques temporaires, également la taille des différentes machines virtuelles, parce que du coup il y aura certainement des questions demandant pour telle taille de machine virtuelle, combien, quelle puissance demander, quelle classe on prend, est-ce qu'on prend une classe A, une classe D ou une classe DS par exemple. Donc c'est des petites choses à savoir, de bien savoir les différences effectivement entre les différentes variations, entre une A1 et une A7 par exemple. Donc il y a pas mal de chiffres, c'est du bachotage à prendre, hein. Mais l'idée c'est ça. Et sur la résilience des machines virtuelles, bien savoir effectivement comment assurer leur leur bonne présence et exécution, même dans le cadre de mise à jour. Donc, savoir ce que c'est que les availabilités 7, plus tout ce qui est effectivement fault domain et update domain.
Tout ce qui est stockage également, les notions de stockage
Le stockage virtuelles. Dans le cadre des machines virtuelles, effectivement, de comment, quelles sont la taille des disques durs, donc sur le système 127 gigas, les disques partagés, comment ça, enfin les disques de data, comment, quelle taille ils ont maximum, et puis également il y a dans la partie stockage. Alors ce qui est assez bizarre, c'est que c'est la fonction est encore en preview aujourd'hui, mais il y a également des choses à savoir sur Azure File, hein, qui est un service, on va dire, de partage de fichiers intégrés dans Azure.
Et puis évidemment, un ensemble de questions relatives à Azure Active Directory, où on demande effectivement de savoir comment on met en œuvre de manière simple un annuaire qui est en mode purement cloud, et puis ensuite on s'intègre naturellement dans l'annuaire d'entreprise. On va poser là pas mal de questions relatives à DirSync, à comment est-ce qu'on va synchroniser des identités dans le data center et les projeter dans Azure, et puis également l'étape ultime, le Saint Graal, la fédération d'identité entre Azure et Azure Active Directory et mon data center.
Ouais, pas mal de questions effectivement. Alors tu as pas de DirSync, il y a également ADSync qui est cité, qui a révisé, et bien savoir la différence entre les deux. On parle beaucoup d'Office 365, donc il y aura probablement des questions d'intégration des deux, entre un Azure AD et un Office 365. Et puis, annuaire égale application, application égale portail des applications, et plus découverte des applications SaaS utilisées en entreprise. Et ça, c'est une des parties, effectivement, qui fait partie de ce grand module Active Directory, où on aura le cloud App Discovery, et puis tout ce qui est mise en place d'applications auprès des utilisateurs.
Et puis également l'intégration des applications à Azure Active Directory, donc avec les protocoles AWS Fédération, OAuth, etc.
Exactement.
Donc ça, voilà, c'est un bon petit tour d'horizon. Hein.
C'était la partie.
Ouais, il nous reste juste dans les modules, il y a effectivement des modules sur les réseaux virtuels, tu en as commencé à en parler tout à l'heure. Ouais. Comment on interconnecte le privé et le public, ou des VNet entre eux. Et puis, une dernière chose qui est directement en relation avec les VM et les sites web, c'est tout ce qui est cloud service, hein, qui ne parle pas forcément trop à la partie à nous IT, parce qu'il y a pas mal de choses qui traitent, on va dire, de package applicatif, etc. Mais il y a un module assez important quand même sur la partie service de cloud, donc il faut y faire un tour. Donc, en révision, je regardais récemment une présentation faite par un Américain sur le sujet. Il disait qu'il fallait bien compter au moins 80 heures de préparation si on partait de zéro. C'est-à-dire que vraiment, on connaissait rien du tout à l'ensemble des sujets. Je pense pas que ce soit intéressant d'aller passer une certification si on part de zéro. Si on a un peu d'expérience, c'est plus intéressant, je pense, effectivement, de compléter par les manques qu'on a sur des parties, parce que tout le monde ne peut pas tout connaître sur la plateforme. Mais par contre, il y a effectivement quand même du temps de préparation. Très insister sur le fait que il y a assez peu finalement de questions qui seront faites par rapport à des interfaces graphiques. Par contre, il y aura beaucoup de questions, visiblement, d'après ce qu'on a pu en apprendre, sur tout ce qui est PowerShell. Donc bien au moins voir les syntaxes de PowerShell, comment elles fonctionnent, parce qu'il y a pas mal de questions, notamment qui vont tourner là-dessus, quels que soient après les domaines concernés.
On a oublié une partie importante également sur le stockage.
Oui.
Qui inclut donc tout ce qu'on a déjà vu sur les blobs, les fichiers Azure, etc. La gestion d'accès avec les clés, les signatures d'accès, les clés d'accès, etc. Les diagnostics, la surveillance et l'analyse.
Et surtout les bases de données SQL database, en fait.
Exactement. D'Azure. Les bases de données SQL. Plus les services de récupération également, qu'il ne faut pas oublier.
Ouais, qui se limite dans le cadre de l'examen normalement uniquement à la partie sauvegarde, donc Azure Backup. Oui. Normalement, les services de récupération, c'est Azure Backup plus Azure Site Recovery, d'après ce que j'en ai compris. On n'a pas de questions sur Azure Site Recovery dans l'examen. Les questions se limitent à la partie Azure Backup. Ça permet d'éviter de rendre encore plus complexe l'apprentissage de tout cela.
Je ne sais pas si on a fait le tour des chapitres.
Oui.
À regarder. Il y a un cours, si vous voulez vous former avec un formateur spécialisé. Il y a un cours qui porte le numéro 20533A et qui s'appelle Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions et qui dure 5 jours.
Ce qui est le bon cours traditionnel tel qu'on le connaît depuis des années effectivement pour ce type de certification. Sachant qu'effectivement en 5 jours, on peut compter que ça fait une quarantaine d'heures de travail et qu'il y a probablement un petit peu plus à rajouter. Donc tout à l'heure, tu vois, je parlais de 80 heures, je pense que j'en étais pas vraiment très très loin. Là encore, ça dépend après des profils. Si vous avez l'habitude déjà de manipuler, vous avez déjà des connaissances sur Azure, ce temps peut être réduit. Dans tous les cas, c'est rare qu'on connaisse absolument tout le spectre complet de la certification en termes de connaissances. Donc il y a toujours des chapitres qu'il faut un petit peu plus travailler. Moi, dans mon cas, typiquement, sur les parties plateforme de service, je suis beaucoup moins à l'aise que sur les parties infrastructure. Et du coup, voilà, je passe du temps là-dessus et moins sur des choses que je connais déjà. Eh bien, je pense qu'on a fait déjà une bonne petite passation. Je pense qu'on aura dans le prochain podcast, on en reparlera un petit peu. On fera un petit peu un retour de tout ça, de voir si on a bien bossé ou pas.
Oui, oui, tout à fait. Oui. On va rigoler.
Le terme rigoler étant un terme technique.
Peut-être qu'on bénéficiera de l'offre Second Shot.
Exactement, on a le droit parce qu'on passe avant le 31 mai 2015. Ça, mais...
Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud et Stan. Une chose à ajouter, non? On a fait le tour.
Eh ben c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup pour cette session.
Eh ben merci à vous. Merci à vous qui nous écoutez. Et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines exactement. Donc ce qui devrait nous amener à peu près au 20 mars. Bonne journée.
Bonne
Pardon.
Ah bon, on a fait.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.